Je vais continuer avec le message de ce matin dans l'Évangile selon Luc, 20 à 44. La dernière fois qu'on a vu, c'est le chapitre 19. Il entre à Jérusalem. Il dit que les disciples et foule, saisis de joie, s'est mis à louer en haute voix, il dit, à cause des miracles qu'il avait vus. Il disait, « Béni soit le roi, celui qui vient au nom du Seigneur. » Béni soit le roi, celui qui vient au nom du Seigneur. Et depuis ce jour-là, Luc nous raconte qu'indignés, les pharisiens, les sacrificateurs, les scribes et les chefs du peuple cherchaient à le faire mourir, à le faire périr. Et même, ils contestaient son autorité. Cela a dû être, j'imagine, difficile pour notre Seigneur, pour Jésus, toute cette opposition, vivre à tous les jours des controverses, et les dernières années de sa vie sur terre, j'imagine qu'ont été difficiles pour lui. Mais il y a une chose qui est vraie, qu'il répondait toujours avec sagesse, avec fermeté aussi, à chaque fois, sans perdre de vue le but de sa mission sur terre. Frères et sœurs, le monde qui nous entoure, ce siècle présent qu'on va lire ce matin, comme Luc s'exprime, ce siècle présent, ce monde terrestre affecte souvent notre façon de concevoir ce que nous attendons, c'est-à-dire le monde céleste, spirituel. Et comme Luc le dit aussi dans ce passage, le siècle à venir. Que ce soit les injustices, le gouvernement, les valeurs de notre société, les courants de pensée ou les philosophies même, tout cela affecte notre jugement en tant que chrétien. Et encore pire, quand ces philosophies et ces choses-là s'introduisent même à l'Église. Comme l'Épître aux Hébreux nous exhorte, nous devons rejeter tout fardeau et le péché qui nous enveloppe, quoi? Si facilement. Et courir avec persévérance, avec les yeux fixés sur qui? Sur Jésus. Avec les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi. Celui qui a supporté la croix, méprisé la honte, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Ce matin, dans les passages que nous allons étudier dans l'Évangile selon Luc, Jésus nous enseigne que nous vivons dans ce monde de façon temporaire. Nous sommes juste des passages. Il nous rappelle que notre patrie n'est pas terrestre. Notre patrie est quoi? Est céleste. Et il nous invite à enlever nos lunettes terrestres et mettre nos lunettes célestes pour voir ce que nous attendons et vivre selon cette perspective. Donc, ce matin, dans ces trois événements qu'on va lire dans ce passage, trois événements qui comportent la question sur l'impôt à César, la question des Sadducéens sur la résurrection et la question de Jésus sur le fils de David. Trois enseignements qui résument ces événements, on peut les résumer en trois enseignements. Nous devons rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Nous sommes enfants de Dieu, citoyens des cieux par la résurrection de Jésus-Christ. Et nous devons reconnaître et accepter la Seigneurie de Jésus, parce qu'il est Seigneur. On l'a chanté ce matin. Il est Seigneur, le roi des rois. Prions. Merci Seigneur pour ta parole, Seigneur, que nous allons ouvrir ce matin, Seigneur, et pouvoir, entendre tes enseignements, Seigneur. Sois avec moi, Seigneur, pour bien, Seigneur, expliquer, pour bien, Seigneur, transmettre ce que tu nous dis, Seigneur, dans ta parole, Seigneur. Ouvre nos cœurs, Seigneur, notre entendement, pour que nous puissions aussi le mettre en pratique, tout ce que tu nous demandes, Seigneur. Merci encore pour ces privilèges et ces bénédictions qu'on a de pouvoir ouvrir nos Bibles, Seigneur, et pouvoir lire ce que tu nous as laissé. Au nom de Jésus, nous te demandons. Amen. Luc 20, versets 20 à 26, s'il vous plaît. Ils se mirent à surveiller Jésus. Et ils envoyèrent des espions qui se donnaient l'allure d'être de bonne foi pour le prendre à l'une de ses paroles et le livrer au magistrat et à l'autorité du gouverneur. ces gens lui posèrent cette question. Maître, nous savons que tu parles et enseignes avec droiture et que tu ne fais pas des considérations de personne, mais que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Nous est-il permis ou non de payer l'impôt à César? Mais Jésus, remarquant leur fourberie, leur répondit, « Montre-moi un denier. De qui porte-t-il l'effigie et l'inscription? De César, dirent-ils. Alors, il leur dit, « Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Ils furent incapables de le prendre à l'une de ses paroles devant le peuple. Mais étonnés de sa réponse, ils gardèrent le silence. Tout un passage que nous connaissons très bien en ce qui concerne cette grande question sur l'impôt. Les impôts s'en viennent, en passant, sur les impôts. Ce n'est pas un thème qu'on aime beaucoup, là, mais après l'indignation qu'il vient d'écouter, ces pharisiens, après leur indignation, en écoutant la parabole des vignerons, de ces vignerons méchants, les pharisiens surveillent Jésus et ils veulent le faire tomber, ils veulent le piéger. Puis ils envoient, il dit, des espions. Je ne sais pas, Luc ne spécifie pas c'est qui ces espions-là, mais dans les autres évangiles, Matthieu, je pense, et Marc, il dit que ce sont des disciples, même des pharisiens, ces espions-là, des hommes qui faisaient semblant d'être justes, des justes, dans le but de quoi? De le piéger et le livrer aux autorités. Ces hommes lui posèrent une question en utilisant de la flatterie. Ils commençaient à flatter Jésus envers lui, en lui disant, « Nous savons que tu parles, quoi, et enseignes avec droiture, et que tu fais pas considération des personnes. Tu ne juges personne sur les apparences, il leur dit, mais que tu enseignes la voie selon la vérité. » Ils commençaient à flatter Jésus-Christ. Et c'est drôle parce que toutes ces flatteries-là, parce que des fois on utilise des flatteries juste pour dire, exagérer quelque chose ou peut-être même insérer quelques mensonges là. Mais on voit que tout cela est vrai dans le cas de Jésus. Là. Et tout ce qu'ils disent, c'est vrai. Là. Ils parlent avec droiture, et enseignent la voie selon la vérité. Et voici la question. Nous est-il permis ou non de payer l'impôt à César? Il voulait faire tomber Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il allait répondre? S'il répondait quoi? Oui, payer les impôts à César. Donc il allait avoir en contre tous les Juifs là, parce que les Juifs n'aimaient pas payer l'impôt. Ils n'étaient pas contents à cause de ça. Mais s'il disait non, payez pas les impôts, ils allaient voir qui là? Les gouverneurs sur lui. Donc il fallait vraiment le Seigneur. Il fallait ils ont des grandes sagesses pour répondre à ces questions-là de ces espions-là qui parlent. Luc, en utilisant le mot « permis », quand il dit « nous est-il permis », en utilisant ces mots « permis » légalement, il ne questionne pas la loi romaine, ces personnes-là, mais sur la loi de Dieu. Donc, ils sont sauvés dans ces cas-là. Les Romains percevaient diverses taxes, incluant les impôts sur le revenu, les impôts foncières aussi, et les taxes sur l'importation et celles du transport aussi. Ils percevaient beaucoup des taxes. Ça vous fait penser à quelque chose? Oui, je pense que nous aussi, ici, on paye beaucoup de taxes. La taxe la plus détestée des Juifs était celle de la capitation qu'on appelait. Taxe par tête, par personne. Et payé pour tous ceux qui vivaient dans l'Empire romain. Et les Juifs trouvaient ça injuste, ils trouvaient ça particulier, offensante même, parce qu'ils suggèrent qu'ils sont la possession de Rome. Donc, ils étaient comme insultés à cause de ça, les Juifs. Mais Jésus connaissait leur ruse et il demande de leur montrer quoi? Une monnaie, un denier dans le temps. Un denier était une pièce d'argent qui équivaut à peu près à le salaire d'une journée pour les soldats romains au temps de Jésus. Il y avait un portrait du visage de l'empereur Tibère César sur un côté. Et c'est pour cette raison que Jésus demande le visage et le nom gravés sur cette pièce De qui sont-ils? Et il répond quoi? César, ou il y en a d'autres qui traduisent de l'empereur. Alors Jésus leur dit, rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Ce que Jésus veut dire avec cette réponse, c'est que les gens doivent remplir leurs obligations temporelles envers le gouvernement humain, et leurs obligations spirituelles aussi avec Dieu. Mais la question était, nous est-il permis ou non de payer? Mais Jésus répond, il ne répond pas avec le mot payer, il dit rendez plutôt. C'est un verbe qui veut dire donner en retour quelque chose qui est dû. Donc il dit rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Mais cela est aussi vrai pour nous. Est-ce que vous aimez payer les taxes? Oh, il n'y en a pas beaucoup. Hein? Non, n'ayez pas peur pour vos réponses. Là. Il n'y a personne qui va vous poursuivre ici. Mais oui, c'est surtout les gens qui achètent une maison, là, et la taxe de la bienvenue. Des bienvenues, c'est ça? Ah oui, la taxe de bienvenue, ça fait mal. Là. C'est une belle bienvenue, c'est gros comme montant. Mais les chrétiens, nous sommes des citoyens du monde temporel, soumis à l'autorité des gouverneurs humains. Là. En même temps, nous sommes soumis aussi à Dieu, sous le règne de Dieu et de Christ. Donc, nous devons remplir nos obligations envers le gouvernement que Dieu a établi. Même l'apôtre Paul, il dit d'honorer le roi, dans 1 Pierre 2, 17. Mais je pense que quelque chose qui nous aide beaucoup et ça va beaucoup plus développé avec l'enseignement que Jésus fait en ce moment-là, c'est l'apôtre Paul qui nous parle dans Romains 13, 1 à 7. Je vous invite à ouvrir, s'il vous plaît, juste à tourner vers l'avant, Romains 13, 1 à 7, tout un passage. Je pense que c'est très clair pour nous comme chrétiens, c'est que notre Seigneur Jésus ici, en quelques mots, il dit « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu », mais surtout en ce qui concerne le gouvernement humain. Romains 13, 1 à 7 dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui vient de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Les gouvernants ne sont pas à craindre quand on fait le bien, mais quand on fait le mal. Veux-tu pas craindre l'autorité? Fais le bien. Et tu auras son approbation, car elle est au service de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, sois dans la crainte, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant au service de Dieu pour montrer sa vengeance et sa colère à celui qui pratique le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement à cause de cette colère, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez l'impôt, car ceux qui gouvernent sont au service de Dieu, pour cette fonction précise, rendez à chacun ce qu'il est dû. Un peu dans le même sens que Jésus parle. La taxe à qui vous devez la taxe, l'impôt à qui vous devez l'impôt, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Je pense que c'est clair, tout ce passage-là, que l'apôtre Paul nous dit dans Romains 13, en ce qui concerne nos obligations envers le gouvernement humain. Par contre, si un gouvernement ordonne aux croyants de faire ce que Dieu défend ou qu'il nous empêche de faire ce que Dieu demande, qu'est-ce que nous devons faire? Malheureusement, des fois, on doit désobéir aux autorités. Et on le voit très tôt dans la vie de l'Église. On le voit, je pense que vous vous rappelez, dans Actes 4, 19 et 5, 29, quand Pierre est en train de prêcher l'Évangile, puis les autorités, ils ne veulent pas qu'il prêche, ils ne veulent pas qu'il parle. Là, il dit, on ne peut pas ne pas parler du salut de Jésus. Et il est mis en prison, et Pierre et Jean répondirent aux autorités, « Est-il juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu? » Et dans le verset 5, 29, il dit, Pierre répondit, et pas juste Pierre, les apôtres aussi. il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Peut-être, heureusement, dans nos sociétés, on n'est pas encore rendu là, mais je pense que dans d'autres pays, maintenant, ils sont rendus là. Dans l'Algérie, on a vu dernièrement que c'est interdit de se réunir comme chrétien. Des fois, il va falloir se cacher. Je ne sais pas si ici, on va arriver à cette chose-là de vouloir se cacher peut-être pour nous réunir. Peut-être, on ne sait pas. Mais déjà, on le voit aussi avec des lois par rapport à la famille et par rapport aux enfants. Déjà, on commence à voir des choses qu'on va devoir ne pas prendre compte de ce que le gouvernement dit. Il veut vraiment que nous puissions élever nos enfants selon leur philosophie ou leurs idées, mais il va falloir à un moment donné que nous allons peut-être être dans un état de désobéissance au gouvernement, parce qu'on ne peut pas faire ça. On ne peut pas aller à l'encontre de ce que Dieu nous demande. De notre côté, nous devons rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Je pense que Paul aussi nous exhorte que nous devons donner nos corps en sacrifice vivant, qui est un culte agréable à Dieu. Et nous devons rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Il est celui à qui nous appartenons et celui que nous servons aussi. À lui seul appartient notre âme, notre culte, nos louanges, notre confiance, notre amour et notre obéissance. Ce qu'ils ne faisaient pas dans ces temps-là, les sadducéens ou les pharisiens. Ils allaient à l'encontre, ils avaient établi leur propre système, leur propre loi même, tradition, qui prenait même la place de la loi. Mais Luc nous dit dans le verset 26, ils furent quoi? Incapables de le prendre à l'une de ses paroles devant le peuple. Ils furent incapables à cause de la réponse de Jésus. Mais étonnés de sa réponse, ils gardèrent quoi? Le silence. Donc c'est 1-0. On parle aujourd'hui de ces trois événements. Il est 9h moins quart. Waouh, on a jusqu'à midi. Hein? Je pense que cette horloge n'est pas bonne. Hein? Voilà. Ils furent incapables de prendre à l'une de ces paroles. Maintenant, s'il vous plaît, nous lisons dans Luc 20, la suite, 27 à 40. Luc 20, 27 à 40. Quelques-uns des Sadducéens, qui soutiennent qu'il n'y a pas de résurrection, s'approchèrent et lui posèrent cette question. « Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. Si le frère de quelqu'un mort et qu'il a une femme et pas d'enfant, son frère épousera la femme et suscitera une descendance à son frère. Or, il y avait sept frères. Le premier se maria, et mourut sans enfant. Le second et le troisième épousèrent la veuve. Et il en fut de même des sept qui moururent sans laisser d'enfant. Après eux, la femme mourut aussi. Ils disent, à la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle donc la femme? Car les sept l'ont eue comme pour femme. Jésus leur répondit, les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris. Mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection d'entre les morts ne prendront ni femme ni mari. Ils ne pourront pas non plus mourir parce qu'ils seront semblables aux anges et qu'ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Que les morts ressuscitent, ce que Moïse a signalé à propos du buisson, quand il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Or, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants, car pour lui, tous sont vivants. Quelques-uns des scribes répondirent, « Maître, tu as bien parlé. » Et ils n'osaient plus lui poser aucune question. Encore, ils posaient aucune question. Jésus leur a répondu de la bonne façon. Donc maintenant, c'est le tour de ces Sadducéens à porter une question. C'est la seule fois d'ailleurs qu'on mentionne les Sadducéens dans cet évangile selon Luc. Et Luc mentionne que les Sadducéens soutiennent qu'il n'y a pas de résurrection. Le passage commence en disant qu'il y a, parce que justement la question ça va être en ce qui concerne la résurrection. Et ils ne croient même pas à la résurrection. Ils veulent piéger encore Jésus. Il mentionne aussi dans le livre des Actes, en parlant des Sadducéens, Luc mentionne, ils disent en effet qu'il n'y a pas de résurrection, ni d'ange, ni d'esprit, tandis que les pharisiens l'affirment. Donc ils étaient en contradiction avec les pharisiens. Les Sadducéens croyaient pas à la résurrection, mais les pharisiens, oui. Ces Sadducéens tentaient de ridiculiser l'idée de la résurrection par une référence au Lévirat, la loi du Lévirat. Parce que c'est pour ça qu'ils disent, voici ce que Moïse nous a prescrit. Le Lévirat avait pour but d'éviter que le nom et la famille d'un homme s'éteignent en lui. Donc nous pouvons lire dans Deutéronome 25, 5 à 6, je vais juste le lire, je l'ai ici devant moi, cette loi du Lévirat. Lorsque des frères habiteront ensemble, si l'un d'entre eux meurt sans laisser de fils, la femme du défunt ne se mariera pas au dehors avec un étranger, mais son beau-frère ira vers elle. La prendra pour femme et l'épousera comme beau-frère. Le premier-né qu'elle enfantera portera le nom du frère défunt, afin que son nom ne soit pas effacé d'Israël. Donc, c'est ça la loi du Lévirat. Puis, c'est ça que les Sadducéens sont en train de dire, mais ils exagèrent un peu. Ils disent qu'il y a eu 7 frères. Dur à suivre cette histoire. Est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai? On ne sait pas. Mais ils approchent Jésus avec la flatterie aussi. Il l'appelle quoi? Maître. Peu importe, les Sadducéens présument que la position de Jésus et de la résurrection est pareille à ce que les pharisiens croyaient aussi. Ils croient qu'il sera incapable de répondre à cette question-là. Il espère réussir à compromettre sa réputation d'un enseignant éminent, c'est-à-dire un maître. Et la question qu'il pose, c'est à la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle donc la femme? Car les 7 l'ont eue pour femme. Et cette question-là que Jésus va répondre. Il répond par plusieurs étapes. Là, il dit les enfants de ce siècle, c'est-à-dire les enfants qui vivent dans ce monde actuel, prennent des femmes et des maris. Comme toutes les autres relations familiales, le mariage n'est que pour ce temps présent, dit Jésus. Il est en train de dire que le mariage, c'est juste pour ce temps présent. Mais ceux qui seront trouvés ici, dignes d'avoir part au siècle à venir, ce que nous attendons, à la résurrection d'entre les morts, mentionne Jésus, nous n'aurons plus besoin, en fait, de nous marier et de créer des familles pour nous repeupler. Jésus dit, nous serons semblables aux anges qui furent tous créés en même temps et qui ne meurent jamais. La mort ne sera plus. Les Sadducéens ne sont pas dignes de ce siècle parce qu'ils désobéissent. Ils ne croient pas ils ne cherchent même pas la vie éternelle. C'est seulement par la foi en Jésus-Christ que certaines personnes sont rendues dignes d'être fils de Dieu. Fils de la résurrection, comme dit ce passage-là. Le corps glorieux de racheté revêtiront lors de la résurrection est décrit en long et en large. Et dans le passage que vous connaissez très bien, je pense, en Corinthiens 15, c'est un long passage qui parle de la résurrection. Et du verset 35 à 50, on peut voir que ce corps-là, corruptible, il va vêtir quoi? L'incorruptibilité. Et on va être changé, même Thessaloniciens, il dit, on va avoir de nouveaux corps. On ne sait pas comment on va être. Est-ce que la question se pose toujours, on va être jeune comme maintenant, on va être vieux comme d'autres, on va avoir le corps, comment ça va être notre corps? On va avoir le corps quand on était jeune, on ne sait pas. Mais une chose, on sait qu'on va être changé, on va revêtir l'incorruptibilité, il dit. Dans un sens, nous sommes déjà fils de Dieu, enfants de Dieu, nés de nouveau, et nous avons été adoptés dans la famille de Dieu. Et nous pouvons lui dire quoi? Notre Père, notre Père. Mais comme on l'exprime ces versets, notre filiation, c'est-à-dire notre relation comme enfant de Dieu, sera pleinement accomplie dans le siècle à venir. Notre existence sera élevée jusqu'à la plénitude dans la vie, dans la famille de Dieu, quand on sera avec lui, après la résurrection. Mais Jésus aussi répond à leurs allégations, parce qu'il cite l'Ancien Testament, le Pentateuque, et puis il cite Deutéronome. Mais Jésus répond avec le Pentateuque en citant l'Exode. Il assure que Moïse a manifestement enseigné que les morts ressuscitent. C'est quand même spécial ce passage-là en disant que c'est Moïse qui a enseigné, qui a parlé de la résurrection. En le lisant comme ça, nous, on pourrait dire, je ne sais pas où se trouve la résurrection, mais c'est vrai ce que Jésus est en train de leur dire. Que les morts ressuscitent, c'est ce que Moïse a signalé à propos du buisson. Dans ce passage, Moïse dit que Dieu se nomme comme le Dieu de qui? D'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'utilise pas le passé. Il se sert du temps présent. Il ne dit pas « je suis ou j'étais le Dieu d'Abraham, j'étais le Dieu d'Isaac ». Il dit « je suis le Dieu d'Abraham ». Le Dieu de ton père, même dit à Moïse, le Dieu de ton père. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, dans Exode 3:6. Pourtant, le passé aurait été approprié puisque ces hommes-là étaient déjà morts. Mais Dieu dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Les morts ne peuvent pas recevoir les louanges à Dieu, ne peuvent pas louer Dieu. Mais Jésus mentionne, car pour lui, sont tous vivants. C'est magnifique ça de voir que ceux qui sont, comme Thessaloniciens aussi, ceux qui sont morts en Jésus-Christ, ils sont vivants, ils vont acquérir, ils vont ressusciter en dernier jour. Mais pour lui, ils sont tous vivants. Donc, des frères et sœurs qui ont laissé cette terre-là, on peut savoir, on a cette assurance-là qu'ils sont encore vivants. Parce que Dieu n'est pas un Dieu des morts. Et Dieu est un Dieu des vivants. Et quand nous allons mourir, comme Jésus lui a dit à ces malfaiteurs-là, en vérité, je te l'ai dit, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. On va être dans la présence, dans une période d'attente, mais on va être dans la présence de Dieu, en étant conscient. On lit aussi dans l'Apocalypse que les saints disent, jusqu'à quand, Seigneur, tu vas venir? Jusqu'à quand tu vas faire justice? On sera dans un état conscient avec lui. La mort n'est pas la fin de l'existence de ceux qui sont trouvés justes et dignes, ceux qui sont trouvés dignes d'avoir part à la résurrection. Tous ceux qui appartiennent à Dieu sont unis à lui et vivent dans sa présence, selon ce que Jésus est en train d'enseigner. Je pense que c'est plus clair quand on lit ce que Jésus dit dans Jean 11, 25 à 26. Vous vous rappelez de cet épisode-là, quand Jésus dit à Marthe lors de la mort de Lazare. Jésus dit à Marthe dans Jean 11, il dit, Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. » Celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort. Et quiconque vit et croit en moi, quoi, ne mourra jamais. Crois-tu cela? Je ne vous demande pas à vous, c'est ce qui est écrit dans le texte. Mais est-ce que vous croyez cela? Oui, si vous ne croyez pas ça encore, c'est le moment maintenant. Jésus sauve et vous pouvez avoir cette assurance-là. Que je suis pu vous sauver en pardonnant vos péchés. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est mort. On a lu tantôt, quelqu'un a lu Ésaïe 53:6. Il est mort pour nos péchés. Et on peut avoir cette assurance que le jour qu'on va mourir, on va être dans sa présence. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. C'est l'espérance de nous comme chrétiens. Ironiquement, les scribes qui sont contre Jésus, et se réjouissent et qui détruisent l'argument de ces sadduciens-là. les grands rivaux. Ils sont humiliés, ils n'osent plus poser aucune question. On voit à la fin de ce passage-là que les scribes disent, « T'as bien parlé, il dit. Maître, tu as bien parlé. » Matthieu rapporte que la foule qui écoutait fut frappée de l'enseignement de Jésus et que les Sadducéens, littéralement réduits au silence, n'osaient plus poser aucune question. Donc c'est combien? 2-0. C'est Jésus qui l'emporte encore. Avec sa sagesse, il répond à ces Sadducéens qui sont en train de vouloir le faire tomber. Lisons encore dans Luc, et c'est le dernier passage, dans Luc 20, 41-44. Maintenant, c'est Jésus qui pose la question. Jésus leur dit, « Comment peut-on dire que le Christ est le fils de David ?» David lui-même dit dans le livre des psaumes, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, « Assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis en marchepied. » David donc l'appelle Seigneur. Comment est-il son fils? Puis, est-ce qu'il répond? Pas de réponse. Aucune réponse. Difficile question aussi. Hein? Comment ça se fait que David y appelle le Messie Seigneur, qui est son fils? Il dit, comment peut-on appeler Christ, Messie, est-il le fils dit. Si David lui-même appelle dans le livre des psaumes, il cite le psaume 110, « Mon Seigneur ». Normalement, les descendants de David, le roi idéal pour les Juifs, là, sont au-dessus de lui. Aucun père au Moyen-Orient, là, encore moins un roi, appelé son fils humain Seigneur. La question est comment les scribes comprenaient ces psaumes-là. Mais il faut savoir une chose, Luc ne dit pas que Jésus renie l'ascendance, la généalogie davidique. Il affirme d'ailleurs clairement à de nombreuses reprises. Déjà, depuis le chapitre 1, il commence à dire que c'est le fils de David. Pas de réponse de la part des scribes, mais Jésus éclaircit leur compréhension au sujet du Messie. Ceux qui utilisent le titre « fils de David » attendaient dans le Messie un libérateur, un vainqueur des ennemis, l'instaurateur du nouveau royaume davidique. C'est ça qu'il attendait comme Messie. Et Jésus veut faire comprendre à ces gens-là qu'il n'est pas le fils de David, juste dans ces sens-là étroits. Il est le Seigneur avec tout ce que le terme implique. C'est reconnaître qu'il est loin supérieur à simplement un autre David. C'est ça qu'il est en train de dire Jésus à ces scribes-là. Il est de loin supérieur. C'est pour ça que le psaume, David inspiré même par le Saint-Esprit, il appelle Seigneur à ce Messie-là. Et le Messie, c'est celui de la descendance de David. Le titre de Seigneur n'a donc rien de banal. Il n'indique pas seulement une simple hiérarchie humaine. Là. Il est le titre d'un être éternel, Seigneur du roi David, avant même qu'il soit né. Être omnipotent, un être omnipotent et souverain, dont nous devons, comme enfants de Dieu, reconnaître la seigneurie de Christ. L'apôtre Pierre cite dans les Actes 2, 34 et 35, « Car David n'est pas monté dans les cieux, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis mes marchepieds. » Que toute la maison d'Israël, dit l'apôtre Pierre, que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait quoi? Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. L'apôtre Pierre est en train de vraiment dire la même chose que ce que Jésus dit, d'affirmer ce que Jésus vient de dire. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, Jésus, que vous avez crucifié. Même l'apôtre Paul mentionne dans Romains 1, 3, 5, en parlant de l'Évangile, il mentionne, « Il concerne son fils, né de la descendance de David selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance par l'Esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. Même l'apôtre Paul affirme ce que Jésus est en train de dire. Et suite à l'intervention de Jésus, Luc ne mentionne rien dans ce passage-là. Par contre, les autres évangiles parallèles finissent par cette phrase-là. Nul ne put lui répondre un mot. Et depuis ce jour, personne n'osa plus poser des questions. Personne n'osa plus poser des questions. Donc, au milieu de cette controverse, Jésus répond aux attaques de ses adversaires. Mais ces réponses, frères et sœurs, sont d'un enseignement précieux pour nous. Savoir que la vie sur terre est temporaire, avec tout ce qui comprend. Et nos maladies, même les impôts que des fois ils font mal, et même les philosophies ou les gouvernements qu'on trouve qui ne sont pas justes. Mais tout cela est temporaire. Nous devons savoir que notre vraie patrie meilleure, céleste, comme s'exprime l'auteur de l'Épître aux Hébreux, notre patrie est dans la cité de Dieu. L'apôtre Paul mentionne dans l'Épître aux Philippiens, aussi dans le chapitre 3, il dit, « Pour nous, notre cité est où? Dans les cieux. De là, nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. » Et il parle aussi de la transformation. Il dit, « Qui transformera notre corps humilié en le rendant semblable à son corps glorieux par le pouvoir efficace qui a d'assujettir toutes choses. » Tout un verset, cela. Pour nous, notre cité, quoi? Est dans les cieux. Et de là, nous attendons comme sauveur le Seigneur, encore une fois, la Seigneurie de Christ, Jésus-Christ, qui va transformer notre corps humilié. Comment? Il va le rendre semblable à celui de Jésus-Christ. Et tout cela, frères et sœurs, est possible à cause de quoi? De l'amour de Dieu, à cause de son sacrifice qu'on vient de se rappeler par sa grâce sur la croix. Et donc, je vous invite à lire ce dernier passage dans Philippiens 2, 8 à 11, que vous connaissez très bien. Ce que nous pouvons vivre maintenant, nous sommes déjà enfants de Dieu, ceux qui ont, nous avons mis notre confiance en Jésus-Christ, nous sommes enfants de Dieu. Et nous pouvons dire avec certitude qu'un jour on sera avec lui et que ce que nous vivons maintenant, c'est juste passager. Philippiens 2, 8 à 11, s'il vous plaît. Tout cela est possible à cause de son sacrifice. Le passage dit, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, il lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et même sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu Père. Que toute langue. Et nous sommes privilégiés ici, parce que nous parlons plusieurs langues ici. On peut rendre gloire à Dieu, l'appeler Seigneur de notre vie. Et que cela nous aide à pouvoir l'aimer davantage. Et vivre selon cette perspective. Nous sommes enfants de Dieu. Et nous espérons le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soit que nous mourions et nous allons dans sa présence, soit qu'il vient et nous prend. Et nous serons transformés comme son fils. Amen.